Bonjour à tous, je suis Isabelle Barros et vous écoutez un podcast de l'OPSI, l'Observateur de la communication interne, média 100% dédié, comme son nom l'indique, à la communication interne. L'idée, échanger avec des professionnels, des experts, des chercheurs sur des sujets, des thématiques qui intéressent les professionnels de la communication interne, mais aussi donner la parole à celles et ceux qui la pratiquent au quotidien. Et pour ce premier épisode consacré à la communication managériale, je suis ravie d'échanger avec Aurélie Renard, ancienne responsable communication, ancienne déléguée générale de l'Association française de communication interne et aujourd'hui fondatrice d'InnerSight. Bonne écoute. Bonjour Aurélie.
Bonjour Isabelle.
Merci beaucoup d'être avec nous pour cet épisode consacré à la communication managériale. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je trouvais important de dire quelques mots sur votre parcours professionnel que je trouve personnellement riche et très intéressant car il donne, à mon sens, il vous donne différents angles de vue sur le sujet puisque vous avez occupé pendant une dizaine d'années des postes de responsable communication dans différentes organisations. Donc, vous avez une expérience terrain marquante, on va dire. Vous avez ensuite dirigé pendant 6 ans la délégation générale de l'AFCI, l'Association française de communication interne. Donc, vous avez été d'une certaine manière plus qu'au cœur du sujet. Et d'ailleurs, vous avez, dans ce cadre-là, piloté la conception, rédaction d'un livre blanc sur la communication managériale. Alors, je précise au passage que le lien de ce livre blanc sera disponible dans la synthèse de l'épisode. Et puis, depuis 4 ans, vous avez fondé le cabinet InnerSight, où vous accompagnez différentes entreprises dans leurs projets de communication et d'accompagnement du changement. Voilà, donc je pense que c'est d'autant plus intéressant d'avoir votre regard sur ce sujet de la communication managériale. La communication managériale dont on parle beaucoup et qui est clairement ressortie comme un point clé de la fonction communication interne de demain dans l'étude qui a été réalisée à l'occasion des 30 ans de l'AFCI. Mais pour autant, c'est pas forcément évident de savoir ce que ça recoupe et de quoi on parle quand on dit communication managériale. Alors, c'est la première question que j'ai envie de vous poser. C'est quoi la communication managériale ?
Oui, alors effectivement, cette question de la définition, elle est importante, hein, comme toujours en communication, pour être sûr qu'on parle tous de la même chose. Alors, je vais m'appuyer sur la définition qu'a donnée l'AFCI dans le livre blanc que vous avez cité. La communication managériale, c'est une communication qui est portée directement par les managers en vue de mobiliser leurs collaborateurs au service de la performance économique et sociale de leur entreprise. Alors, pourquoi je reprends cette définition? Pas seulement parce que c'est la définition de l'AFCI et que, comme vous l'avez dit, je suis attachée pour différentes raisons à cette association. Mais c'est surtout parce que cette définition, pour moi, elle dit 3 choses importantes. Elle dit d'abord que la finalité de la communication managériale, ce n'est pas de communiquer, qui n'est jamais la finalité d'ailleurs de la communication. Elle dit que la communication managériale, son objectif, sa finalité, c'est de gagner en performance. Ça, je crois que c'est vraiment un point clé de situer tout de suite la communication managériale dans cet objectif-là. Le deuxième point qui me plaît dans cette définition, c'est qu'on voit que la communication managériale, c'est avant tout du dialogue. Guillaume Appert, qui est directeur adjoint de la communication de JC2CO et qui a été président de l'AFCI, avait l'habitude de dire que la communication managériale, c'est le dernier maître jusqu'au salarié. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette notion-là. La communication managériale, ce n'est pas qu'une communication avec les managers, même si c'est une étape. C'est une communication qui vise l'ensemble des salariés, des collaborateurs d'une entreprise ou d'une organisation. Et enfin, le troisième point important dans cette définition, pour moi, c'est de dire que la communication managériale, c'est un échange. C'est pas simplement un cascading de messages. C'est une transmission, effectivement, d'informations, de messages. Mais c'est surtout une occasion finalement pour le manager de confronter la stratégie qu'on va lui demander de porter au réel, de la traduire, car souvent il faut traduire la stratégie auprès des équipes, la traduire de façon concrète, et aussi parfois, en discutant avec son équipe, de voir quels sont les nécessaires ajustements. Donc la communication managériale, c'est du dialogue, ce qui veut dire que c'est aussi de l'écoute. C'est aussi et surtout peut-être d'ailleurs de l'écoute. Et quand on a vu ces 3 points-là, on voit bien qu'il n'y a que le manager, finalement, le manager de proximité, qui peut mener à bien cette communication managériale. Donc, si on fait appel à lui, c'est pour une bonne raison. C'est parce que c'est lui qui est en proximité et qui est en capacité d'abord ce dialogue avec son équipe.
Très bien. Ça me paraît être une définition très complète et du coup, je me mets dans la place d'un communicant interne en poste pour lui, puisque c'est un sujet, vous l'avez très bien dit, qui vise l'ensemble des collaborateurs. quelque part, qui est portée par les managers de proximité aussi. Comment le communicant interne s'empare de ce sujet dans l'entreprise, dans le cadre de ses fonctions, dans sa pratique de travail à lui? Quel rôle il joue et comment, de façon très opérationnelle, ça se passe pour lui à ce titre-là?
Alors, c'est très intéressant que vous ayez utilisé le mot « s'empare », parce qu'effectivement, il est nécessaire que le communicant interne s'en empare. Hein, c'est quand même lui qui va être, dans la plupart des cas, la personne qui va introduire cette démarche de communication managériale, qui va l'animer, qui va être garant de son objectif, qui va rassembler tous les acteurs nécessaires. Donc oui, il faut qu'il s'en empare et il est un peu en première ligne là-dessus, dans la mise en place de cette démarche. Et ça lui demande souvent aussi une force d'argumentation et de conviction assez importante. Donc c'est le premier point. Mais pour autant, s'il doit s'en emparer, ça ne doit pas être un domaine réservé. La communication managériale, c'est une partie de la communication interne. Elle doit figurer à ce titre-là dans les stratégies de communication interne. Mais c'est vraiment une mission partagée de communication interne. Et ça reste très important de dire que la communication managériale, c'est une responsabilité partagée. Donc, c'est vraiment un domaine qui doit être ouvert, un domaine collaboratif. Et enfin, le dernier point quand même, je n'oublie pas bien sûr l'expertise de communication qu'ont les communicants. Donc, ce qu'on va attendre aussi d'un communicant dans la mise en place de cette démarche, c'est toute la préparation, la mise en forme des messages, mais aussi ce qu'on pourra appeler un peu l'ingénierie de la communication managériale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en place comme process, et puis toute une partie d'accompagnement qui est très importante. Certes, on va donner des contenus aux managers si on fait de la communication managériale, parce qu'on va les aider à mieux communiquer et avoir des contenus qui sont préparés. Mais on va aussi surtout les former, les accompagner, parfois même les coacher. Et j'ai envie de dire que c'est ce point-là qui est un des points les plus difficiles pour les communicants, parce que vous voyez bien que c'est difficile de se démultiplier. Donc souvent, le challenge, c'est comment je fais finalement pour aider un peu chaque manager à avoir un peu ce sentiment d'accompagner chacun dans cette mission qui n'est pas une mission simple, on voit bien.
C'est sûr. Et du coup, si vous aviez un conseil en particulier à donner aux communicants internes sur ce sujet de la communication managériale, ce serait lequel ?
Alors le conseil, mais ça c'est le conseil que tous les communicants s'appliquent et connaissent en communication interne, il faut persévérer. Voilà, rien n'arrive facilement. C'est souvent effectivement un long travail, et pour initier la démarche et pour qu'elle porte ses fruits. On a souvent, nous communicants, une petite frustration quand on met en place une démarche de communication managériale et qu'on voit que ça ne prend pas. Que tous les managers, pour des raisons qui sont tout à fait légitimes parfois, ne rentrent pas dans cette démarche. Pour autant, je suis persuadée qu'il est nécessaire de persévérer, de faire avec ceux qui sont prêts à y aller, et petit à petit finalement de créer une dynamique. Donc le conseil principal, c'est de s'inscrire sur le long terme. C'est vraiment une démarche qui porte ses fruits sur le long terme. Et c'est une démarche collective et collaborative aussi. Donc encore une fois, ne pas finalement se retrouver un peu enfermé dans cette démarche et porter seul la responsabilité de cette démarche, vraiment aller chercher les acteurs, la direction générale au premier titre, la DRH, les managers eux-mêmes, pour faire en sorte que cette démarche elle soit la plus partagée possible et qu'elle puisse être productive et vraiment générer de la performance pour tous.
D'accord. Et si, alors ça me vient un peu comme ça quand je vous écoute, mais finalement, est-ce que on a parlé de la direction générale, de la DRH, des managers eux-mêmes, du communicant ou des communicants internes, mais finalement les collaborateurs, est-ce qu'ils ont un rôle finalement dans cette démarche de communication managériale, puisqu'ils sont un peu a fortiori les premiers concernés au bout de tout ça, mais est-ce qu'ils auraient un rôle, en tout cas est-ce que les communicants internes peuvent aussi s'appuyer sur les collaborateurs dans cette démarche de communication managériale? Comment ça peut s'opérer? Est-ce que ça fait sens de poser cette question? Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ce propos?
Ça fait tout à fait sens de poser cette question parce que, on le disait tout à l'heure, c'est un dialogue, la communication managériale. Donc, pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'il y ait plusieurs acteurs. Donc, le manager ne doit pas se retrouver en position, finalement, d'être tout seul à transmettre des messages. Hein. Alors, il faut qu'il crée le cadre et qu'il soit aidé pour créer le cadre de ce dialogue. Mais il faut aussi que chaque collaborateur se sente responsable de s'exprimer de façon constructive, mais de s'exprimer autour de ce qui lui est présenté par son manager, de faire remonter ses questions, ses doutes, de faire des propositions. Donc, oui, la communication managériale, c'est une partie de la communication interne qui est portée, partagée par tous. Donc, le collaborateur, il y a vraiment complètement sa place. Après, il m'arrive aussi parfois de conseiller aux communicants d'avoir un petit effet levier. Parfois, il faut un petit stimuli, il faut que les collaborateurs, effectivement, la réclament un peu, cette communication managériale. Et dans les études d'opinion interne, moi, je conduis un certain nombre d'études sur la communication interne dans des entreprises. Souvent, on pose des questions pour que les collaborateurs puissent exprimer cette demande s'ils l'ont. Je souhaite avoir plus d'occasions d'échanger en équipe avec mon manager. Je souhaite que mon manager me présente finalement les orientations de l'entreprise. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, même dans la période de crise là, dont on sort à peine, il y a un certain nombre d'études, et je pense notamment aux études Work-Life d'Opinion Way, qui montraient que dans les attentes des collaborateurs vis-à-vis de leur manager, on a toujours dans les trois premières attentes le fait qu'ils fassent un point régulier sur l'entreprise, sur l'activité, sur la situation. Donc, on a toujours ce besoin finalement d'être éclairé un peu par le manager pour réussir à s'intégrer globalement dans la communication et dans l'entreprise. Et donc, oui, le collaborateur, il peut la réclamer, cette communication managériale aussi, si elle n'existe pas ou pas assez.
D'accord. Et vous disiez beaucoup, donc c'est une histoire de dialogue. Finalement, on parle aussi beaucoup de dialogue au travail, de dialogue sur le travail. Est-ce que ça s'inscrit dans cette démarche de communication managériale ou est-ce que c'est encore un sujet un peu différent ? Comment on se positionne par rapport à ça ? Est-ce que finalement, tous ces sujets qui portent sur le dialogue au travail et le dialogue sur le travail, sur l'activité de travail, est-ce que finalement, c'est dans cette démarche de communication managériale ou c'est encore autre chose ?
Alors, effectivement, faites bien de le dire, il y a eu des travaux, et je pense notamment à ceux de Mathieu Détchessard, qui ont été relayés par l'ANACT, qui ont été relayés par l'AFSI, notamment Jean-Marie Charpentier, autour de la nécessité d'ouvrir des espaces de discussion sur le travail. Souvent en lien avec des thématiques de qualité de vie au travail, hein. C'est souvent le point de départ, finalement, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien et qu'est-ce qui fait que, parfois, les salariés expriment un mal-être. Liées à une absence de sens, par exemple, trouvée dans leur travail. Donc, c'est à cette occasion-là qu'on a reparlé de ces espaces de discussion où on pourrait parler de ce que les sociologues appellent le travail réel. Et c'est le travail avec tous ces bonheurs, toutes ces difficultés, tout ce qu'on a à trancher au quotidien, vous voyez, ce qui semble pas écrit justement dans les feuilles de route stratégiques, mais ce à quoi on est confronté. Parfois, les salariés font remonter ces questions et cet écart qu'ils voient parfois entre ce qui vient du haut, la stratégie, et ce qu'eux vivent. C'est un écart qu'il faut effectivement essayer de réduire, mais qui pourra pas se réduire complètement. Effectivement, il y a deux points de vue. Et donc, pour moi, la communication managériale, elle peut aussi servir à réduire cet écart. C'est-à-dire que son contenu, bien sûr, qu'il part d'une envie de partager une feuille de route, une stratégie qu'a la direction de l'entreprise. Mais le but de ce dialogue, justement, en équipe, c'est d'arriver à confronter cette feuille de route, cette stratégie au travail réel, de voir comment on l'adapte, comment ça se traduit, et puis de voir aussi comment les collaborateurs peuvent faire remonter et enrichir des choses. Moi, je pense que c'est bien de faire des grands dispositifs participatifs de temps en temps, et c'est tout à fait nécessaire, mais je crois aussi beaucoup au fait de créer des espaces régulièrement pour pouvoir justement laisser les salariés s'exprimer et venir enrichir la feuille de route stratégique. Donc, oui, les espaces de discussion sur le travail, pour moi, ils peuvent s'intégrer tout à fait dans une démarche de communication managériale, même si, encore une fois, l'objectif est souvent un objectif très lié à la qualité de vie au travail. Et donc, il faut quand même bien définir et bien cadrer la démarche et ce qu'on en attend.
D'accord. C'est un point très intéressant. On a dit beaucoup de choses, enfin surtout vous. Vous avez dit beaucoup de choses sur le sujet très intéressante. S'il fallait retenir ou résumer, retenir une chose de cet échange à propos de la communication managériale, qu'est-ce que vous auriez envie de mettre le plus en avant ?
Alors, moi, ce que j'aime répéter, mais c'est aussi parce que je suis confrontée, comme les responsables communication interne, au fait de convaincre parfois la pertinence de la démarche, hein, de convaincre différents acteurs. Donc, moi, j'aime bien quand même redire la communication managériale, c'est un levier de performance, hein, en rajoutant derrière, comme dans la définition de l'AFSI, de performance économique et sociale. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui permet à l'entreprise et à chaque équipe d'atteindre ses objectifs. Donc, ça vient aider l'entreprise globalement, mais ça doit venir aider chaque manager à atteindre ses objectifs. Et c'est aussi un levier de performance sociale au sens où une bonne communication managériale, elle doit permettre à un moment aux salariés de trouver du sens dans ce qu'ils font. À leur niveau individuel, au niveau de leur équipe, en voyant comment ils contribuent finalement à cette stratégie. Et c'est ça qui permet aussi de trouver du sens dans son travail. Donc, la communication managériale, je crois qu'il faut le redire, c'est pas quelque chose qu'on fait parce que ça nous fait plaisir à nous communicants de transmettre des slides. C'est pas quelque chose dont on va se débarrasser en disant sur telle stratégie, je ferai un PowerPoint, ça ira. C'est vraiment un levier de performance. Si on l'active pas, moi je suis intimement convaincue qu'on atteint moins vite et moins bien ses objectifs. Donc, utilisons ce levier comme on a d'autres leviers de performance dans l'entreprise, mais c'est vraiment un levier clé, et c'est à ce titre-là qu'il concerne tous les acteurs et pas seulement, bien sûr, les communicants.
D'accord. Alors, moi, si j'essaye de résumer un peu, puisque je suis communicante interne de métier, donc c'est vrai que je vais avoir tendance à être très aussi axée sur le communicant interne en poste, concrètement pour lui. Si je résume un peu ce qu'on vient d'échanger à ce propos de la com managériale, il y a finalement un point qui est de soutien au manager, c'est-à-dire les soutenir dans cette démarche en leur apportant peut-être les outils ou la formalisation nécessaire au partage de la stratégie et des projets d'entreprise, par exemple. Il y a aussi le volet formation, comment j'accompagne les managers, comment je les forme, ou en tout cas que je les sensibilise à cette communication de proximité, comment je leur donne les clés pour bien communiquer avec leurs équipes au sens large. Et puis finalement aussi de pouvoir aider les collaborateurs, en tout cas à faire remonter leur intérêt pour le sujet ou leurs besoins sur le sujet via des études d'opinion. Si je résume, est-ce qu'on est à peu près dans ce carcan-là, ou est-ce que j'ai oublié des points pour les communicants internes?
Non, c'est bien résumé, parce qu'effectivement, si on prend les choses de façon un petit peu plus opérationnelle, hein, pour un communicant qui se dirait, tiens, comment je peux lancer une démarche ou relancer une démarche, parfois réactiver une démarche. Les points clés, le premier point, c'est de convaincre. C'est-à-dire, on peut pas lancer une démarche comme ça seul. En tout cas, on n'ira pas très loin. Donc, il faut s'assurer d'une volonté forte des dirigeants. Et donc, les convaincre du fait que, encore une fois, c'est un levier de performance. C'est indispensable parce que leur soutien est indispensable, mais aussi parce que ils sont exemplaires sur ce sujet-là. C'est-à-dire que si eux-mêmes ne sont pas dans une démarche de communication managériale, c'est difficile derrière de demander aux autres managers de l'être. Donc d'abord, la volonté des dirigeants à gagner, je dirais, hein, quand elle n'existe pas. Et puis après, très important, et c'est là qu'on voit l'importance de la collaboration DRH et communicants, c'est le cadre clair donné au manager sur ce qu'est cette mission. Voilà, il faut donner un cadre clair, il faut sortir de l'implicite, il faut qu'il y ait cette mission mentionnée dans les fiches de poste, des objectifs, une évaluation. Dans notre monde, ce qui n'est pas évalué n'existe pas. Hein, et pour les managers qui sont des êtres rationnels, hein, ce qui n'est pas évalué, objectivé, finalement, ça va pas être sur le haut de la liste, ou alors pour les plus convaincus, les plus motivés. Donc voilà. Donc il faut un cadre très clair sur les attentes et les moyens qu'on met à leur disposition. Il faut bien sûr connaître sa communauté managériale. Ça, c'est un point. Je le dis en passant, mais c'est pas un point si facile que ça. Hein. Qui je mets dans cette communauté-là? Comment je l'anime, cette communauté? C'est essentiel également de structurer cette démarche. Hein. On a parlé du fait de la placer sur le long terme. Pour la placer sur le long terme, il faut qu'il y ait un minimum de process et de pilotage. Quand je dis un minimum, c'est à adapter au contexte de l'entreprise. Certaines vont aller assez loin sur les process. Hein. J'ai en tête notamment ce qu'avait pu faire Danone il y a quelques années. C'est une démarche très processée qui a très bien fonctionné. Pour d'autres qui ont des cultures d'entreprise managériales autres, ce sera des démarches un peu plus souples. Mais en tout cas, il faut l'adapter au contexte et aux enjeux de l'entreprise, et assumer le fait d'avoir une démarche structurée et régulière. pas seulement une démarche qu'on va sortir de temps en temps parce qu'on a besoin d'appuyer un projet stratégique. Un point aussi qui va parler aux communicants, c'est bien sûr la nécessité d'avoir des contenus clairs, hein, des contenus qui portent des messages, qui portent aussi de l'information, des choses qui, avec lesquelles vraiment les managers sont à l'aise. Et c'est là qu'il faut pas hésiter à tester auprès d'un panel de managers. Il faut vraiment des contenus qu'on puisse s'approprier et faire vivre dans un dialogue avec les équipes. Ce qui veut dire qu'il faut une planification et une éditorialisation de ces contenus. Ça, faut assumer ce côté-là de la com managériale. Et puis, qui dit démarche structurée de progrès dit évaluation. Mais ça, c'est propre à toute démarche de com interne. On ne peut pas piloter à vue comme ça et sans avoir, à un moment donné, si on a des objectifs, on a des indicateurs, on est en capacité d'améliorer la démarche, de l'adapter quand c'est nécessaire. Voilà. Donc, une évaluation et un pilotage régulier de la démarche. Voilà, donc, c'est vraiment une gestion de projet, hein, la communication managériale.
Est-ce qu'on peut citer quelques indicateurs sur une démarche de communication managériale, par exemple ?
Alors, on peut avoir des indicateurs de réalisation, je dirais, d'activité, c'est-à-dire, alors, en faisant attention de ne pas tomber dans une forme de flicage, mais on peut effectivement essayer de savoir à quel rythme ont lieu ces dialogues et ces réunions entre le manager et son équipe. Hein, quand on s'inscrit dans ce cadre-là, je ne parle pas de réunion de pilotage d'activité, je parle vraiment d'une réunion où on va aborder des questions globales et stratégiques pour l'entreprise. Donc ça, c'est un premier indicateur. C'est souvent l'indicateur qu'on met en place quand on est dans une démarche qui vient appuyer un projet, hein, et qui, notamment un projet de transformation. On a vraiment besoin de savoir si à un moment donné, on se donne les moyens et on va jusqu'au bout. Mais les meilleurs indicateurs, c'est les indicateurs de performance et qui sont parfois les plus compliqués et qu'on retrouve dans les baromètres sociaux, c'est-à-dire que en croisant un ensemble de questions, on voit finalement comment progresse ou pas la compréhension que peuvent avoir les collaborateurs d'une stratégie, son appropriation. Et comme on pose souvent aussi la question de quelle est votre source d'information principale et que les managers arrivent souvent dans les trois premiers, en croisant, on voit un petit peu finalement quelle est la contribution de la communication managériale à un objectif qui reste important, qui est qu'effectivement les collaborateurs comprennent la stratégie et arrivent à se l'approprier, à la mettre en œuvre.
D'accord. Et finalement, alors ça c'est une question un peu d'actualité. Vous en avez parlé tout à l'heure. On est en train de sortir d'une crise sans précédent. Est-ce que ça a changé quelque chose sur cette démarche de communication managériale qui était déjà, je pense, importante à mettre en place? Mais est-ce que vous pressentez des changements marquants, majeurs du fait de cette crise sur la communication managériale?
Alors c'est vrai que c'est difficile parce qu'on a peut-être tendance aussi à voir ce qu'on veut voir. Donc moi c'est vrai que j'ai accueilli les bonnes nouvelles et j'ai pas forcément eu aussi des échos d'entreprises où les choses ont été plus mitigées. Mais globalement moi ce que j'ai pu voir chez des clients et ce dont on m'a fait part aussi, c'est que les managers ont vraiment été très présents dans la communication là et pas seulement pour piloter leur activité. C'est un point clé, mais ils ont été aussi là en soutien, en éclairage. Ils ont été aussi là pour expliquer certaines décisions. Donc, ils ont vraiment joué à plein leur rôle de manager communicant. Alors, on n'était pas tout à fait, bien sûr, dans un échange autour de grands projets stratégiques. Et encore aujourd'hui, c'est difficile parce qu'on a peu de visibilité, on a pas mal d'incertitudes. Mais enfin, en tout cas, il y a eu cette volonté de la part de nombreux managers de rentrer dans ce dialogue avec leurs équipes. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ça a été aussi très bien accueilli par les communicants. La question, c'est une question plus globale sur la crise, c'est comment on tire les enseignements de tout ça, qu'est-ce que ça nous apprend finalement, qu'est-ce qu'on veut apprendre sur ce qui s'est mis en place, parfois spontanément, parfois de façon accompagnée. Finalement, toute cette réflexion-là, elle peut venir aussi alimenter une réflexion sur une démarche de communication managériale hors crise. Par ailleurs, c'est toujours, je dirais, la même chose, c'est que moi, je vois que parfois, on fait appel à la communication managériale quand justement, on a une urgence à gérer. Heureusement, pas souvent des crises, plutôt des projets de transformation, des projets stratégiques, des choses dont il faut vraiment convaincre, entre guillemets, les collaborateurs. C'est quand même beaucoup mieux et plus simple que d'avoir cette démarche déjà structurée, régulière, et finalement de l'activer un peu plus quand on est justement dans des périodes peut-être plus clés pour l'entreprise. Donc, ce que nous apprennent aussi les crises toujours, c'est que quand on a un process et un canal qui est déjà en place et qui fonctionne bien, on gère mieux les périodes exceptionnelles. Ben, c'est un peu la même chose pour la communication managériale. Si on arrive à mettre en place une démarche en temps normal, et ben on arrivera à l'activer, à la rendre performante dans des périodes plus intenses.
Alors Aurélie, peut-être que si on pouvait donner un point de vigilance peut-être aux communicants internes dans cette démarche de communication managériale, quels seraient ou quels pourraient être les points de vigilance à ce propos ?
Alors le point de vigilance, c'est un peu celui qu'on essaie toujours d'avoir en communication interne, c'est qu'il y a Il n'y a pas d'outils ou de pensée magique en communication interne, donc il y a différents canaux qu'on peut mettre en place qui vont venir se compléter. Donc il y a la communication managériale, il y a d'autres formes de communication interne. Il faut en attendre, il faut se fixer des objectifs, mais il ne faut pas en attendre trop. Et il ne faut pas non plus parfois aller un peu contre les managers au sens peut-être leur imposer une démarche. Parfois, voilà, on va venir un petit peu leur demander d'activer quelque chose, alors qu'eux-mêmes ne sont pas complètement prêts à ça. C'est d'ailleurs souvent un peu un frein quand les managers ne le font pas, parce qu'ils ne sont pas convaincus de la pertinence de la démarche, et parfois même ils sont pas très convaincus parce qu'on leur demande de communiquer. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un travail de préparation auprès des managers, de conviction, de co-construction, qu'il faut pas oublier de faire. En fait, voilà, pour que ça fonctionne bien.
Est-ce que ça rejoint un peu l'idée dont on parle, le point dont on parle dans d'autres sujets de communication interne, qui est finalement, pour le communicant interne, faire la pédagogie de son métier, de sa fonction, pour montrer que déconstruire certains a priori, c'est pas juste les petits fours et les paillettes, mais qu'il y a aussi d'autres points sur lesquels il peut apporter de l'aide et du soutien aux acteurs de l'entreprise. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté vraiment pédagogie du métier auprès des managers, pour le coup ?
Oui, tout à fait. Il y a ce côté pédagogie du métier, il y a ce côté proximité, il y a ce côté écoute aussi qu'a le communicant. Il y a aussi cette volonté de s'intéresser finalement à ce que sont les contraintes du manager, c'est-à-dire ce qu'ils sont en capacité de faire aujourd'hui, parce qu'on leur en demande beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux et comment on peut travailler avec eux sur le fait d'avoir finalement un peu plus de marge de manœuvre. Ça ne doit pas être vécu comme une contrainte, cette communication managériale, et ça ne doit peut-être pas être vécu comme quelque chose en plus. Donc peut-être une piste, c'est de voir comment on peut intégrer finalement peut-être de nouveaux contenus dans des réunions existantes déjà ou dans des démarches existantes déjà. Il faut vraiment que ça soit vu comme une aide et pas juste et pas du tout comme une contrainte imposée du haut.
Très bien Aurélie, et pour celles et ceux qui voudraient approfondir le sujet, est-ce qu'il y a des livres, des articles que vous pourriez conseiller pour aller un peu plus loin ?
Alors je vais quand même vous reparler du livre blanc de la PSI parce que je pense que c'est quelque chose qui d'abord qui est facile à lire et communiquant pas toujours beaucoup de temps, donc voilà, qui pose bien les bases et puis qui surtout a été co-construit avec d'autres communicants. Voilà, donc il est très parlant je pense pour des communicants en entreprise, donc le livre blanc de la FSI sur le sujet. On a parlé des travaux aussi de Mathieu Deschessard autour du management, des espaces de discussion sur le travail, voilà, en disant qu'il peut y avoir des croisements possibles. Ça, il y a un stand d'ouvrages, des choses aussi qui sont publiées sur le site de l'ANACT, voilà, qui me semble particulièrement intéressant à regarder. Donc voilà, ça serait les principales sources. Après, il y a des publications sur le management de la part de je pense notamment à Eric Albert, je pense à Maurice Thévenet, voilà, je pense à des gens qui n'ont pas travaillé sur la communication managériale, mais qui disent des choses sur le management qui sont tout à fait pertinentes pour notre sujet.
D'accord, très bien. Bon, ça fait quelques petites lectures pour cet été. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Aurélie, c'était très intéressant de vous entendre sur ce sujet passionnant de la communication managériale. Merci beaucoup.
Merci Isabelle, c'était un plaisir.
À très bientôt Aurélie. Ce podcast est maintenant terminé. Merci beaucoup pour votre écoute. Le lien et la synthèse de l'épisode sont disponibles sur le site de l'OPSI, obs-ci.fr, rubrique podcast. Si vous souhaitez réagir à cet échange, proposer des sujets ou participer à un épisode, une adresse mail, contact@obs-ci.fr. À très bientôt.